Laudetur Jesus Christus.
Dernier Angélus avant Noël, quatrième dimanche de l'Avent, le pape enrhumé s'est adressé aux fidèles depuis la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Il est revenu dans sa catéchèse sur le miracle de la vie et le don de la maternité. Dans ses appels, le Saint-Père n'a pas manqué d'appeler à la paix en Ukraine, mais aussi à Gaza, où il a évoqué pour la seconde fois en deux jours la cruauté que subissent les Palestiniens depuis plus d'un an. Le Proche-Orient connaît des bouleversements profonds depuis plusieurs semaines. Pour les chrétiens de la région, l'incertitude est grande quant à l'avenir. En Irak, le cardinal Sacco, patriarche chaldéen, fait passer un message d'unité à son peuple. Nous l'entendrons. Nous resterons dans la région en Syrie pour notre dossier. Cette année, Noël n'apporte pas seulement l'espérance du Christ, il apporte aussi celle d'un avenir meilleur pour le pays après la chute du régime de Bachar al-Assad. Nous le verrons avec sœur Jian Atala, directrice de la plus grande école chrétienne de Damas. Et puis plus de 6 mois après les législatives, les Belges attendent encore un gouvernement et ils ne devraient pas en trouver avant Noël. Retour sur des négociations compliquées.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour. Dernier Angélus avant Noël. C'est depuis le décor de la chapelle de la maison Sainte-Marthe que le pape a récité la prière mariale de ce quatrième dimanche de l'Avent. Souffrant des symptômes du rhume en voie d'amélioration et devant se préparer à la célébration de la nativité chargée cette année à Rome en raison du jubilé, le pape de 88 ans a donc développé sa méditation sur la visitation de Marie à Élisabeth depuis sa résidence vaticane. Les fidèles, eux, étaient au rendez-vous. Place Saint-Pierre, malgré le froid, ils ont pu entendre la réflexion de François sur le miracle de la vie et le don de la maternité. Delphine Allaire.
À côté de son petit enfant Jésus en bois et devant les 4 bougies de la couronne de l'Avent, le pape a insisté sur la proximité des signes prodigieux de Dieu pour chacun de nous, visibles par exemple dans le don de chaque vie.
Benediciamo le mamme e diamo lode a Dio per il miracolo della vita.
À l'instar d'Élisabeth et de Marie, bénissons les mères et rendons grâce à Dieu pour le miracle de la vie, a lancé François, confiant que l'espérance se perçoit parfois dans les gestes les plus simples, comme celui de se lever dans le bus quand s'approche une femme enceinte. Ainsi, pour Noël, au-delà des décorations, de la fête, des lumières, de la musique, le souverain pontife souhaite que nous exprimions des sentiments de joie chaque fois que nous rencontrons une mère portant son enfant dans les bras ou sur les genoux. Aucun enfant n'est une erreur, a-t-il répété, concluant en interpellant chacun sur son attitude devant chaque enfant naissant et dans la défense de la valeur sacrée de la vie. Grand mystère face auquel, rappelle le pape, nous devons ressentir admiration et gratitude.
Delphine Allaire, et au terme de la prière de l'Angélus, le pape a une nouvelle fois lancé un appel pour que cessent les hostilités à Gaza et dans le monde entier, pour que les chants de Noël succèdent au bruit des armes. François, pour la 2e fois en 2 jours, a aussi dénoncé la cruauté que subissent les Palestiniens dans la bande de Gaza, Jean-Charles Puzzoli.
À l'approche de Noël, le fracas des armes devient de plus en plus insupportable et le pape s'en fait l'écho en employant un vocabulaire plus fort que d'habitude. Si François a lancé d'innombrables appels au dialogue et au cessez-le-feu, il en vient maintenant à dénoncer une cruauté à Gaza.
Penso a Gaza, a tanta crudeltà, ai bambini mitragliati.
Cruauté, non seulement le substantif fait suite aux rapports d'organisations humanitaires comme Médecins sans frontières qui dénoncent des crimes de guerre ou encore Human Rights Watch qui accuse Israël de perpétrer un génocide. Mais le pape l'emploie pour la 2e fois en 2 jours. Vendredi, le souverain pontife, qui s'informe au quotidien de la situation sur place, s'était élevé contre un bombardement à Jabalia qui avait fait 10 morts, dont 7 enfants d'une même famille. C'est là que le mot est lâché devant les cardinaux de la curie à l'occasion de l'échange de vœux, une cruauté. Au même moment, François dénonçait le refus des autorités israéliennes de laisser rentrer le patriarche de Jérusalem à Gaza, refus finalement levé hier. Le cardinal Pierre-Baptiste Apizzaball a pu célébrer la messe pour apporter un brin de réconfort à des chrétiens meurtris et en grande souffrance. Le monde entier est avec vous, leur a-t-il dit, s'inclinant devant la résilience de la petite communauté chrétienne de la paroisse de la Sainte Famille. N'oubliez jamais que Jésus est ici avec vous, leur a encore confié le patriarche latin qui effectuait sa 2e visite à Gaza depuis le 16 mai dernier.
Jean-Charles Puzolu, et au milieu de ces tourments du Proche-Orient, l'Église chaldéenne ne cache pas non plus son inquiétude. Bagdad et Téhéran étaient en effet unanimes dans leur soutien au régime de Bachar al-Assad, comme pour leurs frères syriens. Les chrétiens d'Irak abordent donc la période avec incertitude, d'autant plus que la crise structurelle du pays persiste, s'y mêlent divisions politiques, tensions sociales, défis sécuritaires et pressions étrangères, un contexte fragmenté dans lequel le patriarche des Chaldéens tente de faire passer un message d'unité, notamment à l'occasion de la nativité. Le cardinal Louis-Raphaël Sacco.
Il faut retourner à l'identité irakienne et non pas les identités individuelles. Et l'unité des Irakiens, à l'État irakien, un État fort, État de justice, de citoyenneté, et un État qui respecte tous les Irakiens hors de leur appartenance religieuse ou ethnique. Puis la réconciliation, le Noël est aussi la réconciliation avec soi-même et avec les autres. Les Irakiens doivent résoudre les problèmes par eux-mêmes et non pas permettre aux autres d'intervenir. Chercher une solution intérieure qui nous évite les interventions extérieures. C'est ça la richesse de l'Irak. Donc, il n'y a pas un groupe qui doit dominer tous les autres, chrétiens, musulmans, chiites et sunnites, des yézidis et autres. Puis, au niveau ethnique, disons, les arabes, les kurdes, les chaldéens, les assyriens, les arméniens. Mais tous, nous avons la même identité comme irakiens. Et nous participons donc à cette terre-là. Et il faut la construire, que ce soit, disons, un petit paradis pour tous.
Le cardinal Louis-Raphaël Sacco, patriarche des Chaldéens, des propos recueillis par Delphine Allaire. Lors de l'Angélus, les pensées du pape sont allées aussi vers l'Ukraine martyrisée qui continue d'être frappée par des attaques sur les villes, endommageant parfois des écoles, des hôpitaux, des églises, a déclaré François. Que les armes se taisent et que les chants de Noël résonnent, a-t-il réclamé. En signe de proximité, il a dépêché son aumônier apostolique dans le pays pour Noël. Le cardinal Gomorrah Krajewski accorde ainsi sa 13e visite au nom du pape à l'Ukraine. Il est parti muni de cargaisons humanitaires essentiellement médicales, ainsi que d'un camping-car médical. Sur le plan militaire, le martyr de l'Ukraine ne devrait pas cesser, le président russe ayant promis hier encore plus de destruction au pays après une attaque de drones samedi attribuée à Kiev. Des immeubles de Kazan dans le centre de la Russie ont été touchés. Vendredi, 6 personnes avaient trouvé la mort dans un bombardement ukrainien dans la région de Koursk. Un peu plus tôt, des bombardements russes par missiles avaient frappé la capitale ukrainienne, tuant une personne, endommageant des ambassades et une église catholique romaine. Preuve de l'internationalisation du conflit, de sa dureté, plus d'un millier de soldats nord-coréens ont été tués ou blessés ces dernières semaines en Ukraine en combattant aux côtés des forces russes. C'est ce qu'affirme l'armée sud-coréenne qui suit de très près ce déploiement armé de son voisin. Selon les services de renseignement militaire de Séoul, Pyongyang s'apprête même à envoyer davantage de renforts en Ukraine. Alors que les Français sont en plein psychodrame politique depuis juillet et l'absence de majorité à l'Assemblée nationale, les Belges, eux, attendent toujours un gouvernement depuis le 9 juin dernier et les élections législatives. Malgré la victoire de la droite et du centre-droit dans les Flandres et en Wallonie, les discussions entre les 5 partis concernés pour former une coalition durent toujours. Un accord de gouvernement pourrait être cependant signé début janvier. Retour sur ces 6 mois et quasiment 200 jours sans gouvernement avec à Bruxelles Jean-Jacques.
Les médias belges n'arrivent plus à compter le nombre de visites effectuées par Bart De Wever au Palais Royal. Celle de vendredi dernier était la 14e selon certains, la 16e disent d'autres, pour celui qui a été nommé formateur en charge des discussions de coalition. C'est à ce titre que le chef de la NVA, les conservateurs flamands, doit rendre compte régulièrement au roi Philippe de l'avancée des négociations entre les 5 partis théoriquement prêts à passer un accord. Autour de la table, les conservateurs du NVA, les chrétiens démocrates et les socialistes côté flamand, les libéraux du MR et les centristes côté wallon. Et malgré des rencontres quotidiennes, il y a toujours des désaccords entre eux, essentiellement sur des questions budgétaires. Il faudrait dégager 20 milliards d'euros pour assainir les comptes belges, mais avec quelles économies et quelles recettes supplémentaires? C'est toute la question, alors que les libéraux refusent toute hausse d'impôts, quand les centristes et les socialistes rechignent, eux, à faire des économies sur le système de santé fédéral, le droit d'asile ou encore l'assurance chômage. Même si pour le moment, on est encore loin du record de 2010-2011 avec 541 jours sans gouvernement, gouvernement, le roi des Belges lui semble commencer à se lasser, disant espérer une percée décisive début 2025. Et alors que les négociations doivent reprendre aujourd'hui, nul doute que les téléphones des politiques belges vont chauffer pendant toute la période des fêtes. Jean-Jacques Herry, Bruxelles, pour Radio Vatican.
Jour de deuil national en France en solidarité avec Mayotte, ravagée il y a 10 jours par le cyclone Chido. Selon un dernier bilan, toujours provisoire, 35 personnes ont perdu la vie. Et puis au Mozambique, où le cyclone est également passé, les autorités annoncent la mort de 94 personnes. Retour au Proche-Orient pour le dossier en Syrie, où les écoles chrétiennes s'apprêtent à fêter Noël avec les élèves. Aujourd'hui, dernier jour avant les vacances, à Damas, Sœur Jihad dirige l'école Ahria, la plus grande école chrétienne de la capitale, avec ses 1600 élèves âgés de 3 à 18 ans. Pendant que les plus petits sont occupés à chanter en classe, les plus grands organisent des opérations à caractère humanitaire. Cette année, les écoles ont été fermées 10 jours après le 8 décembre et la chute du régime de Bachar al-Assad. Mais pas question de bâcler pour autant la préparation de Noël, qui est préparée dans la même ferveur, avec cette année l'espoir d'un avenir meilleur pour une Syrie toute à reconstruire, comme en témoigne Sœur Jihad.
Alors nous, avant tous ces événements, on avait commencé comme tous les ans, parce que nous, tous les ans, on fête Noël avec les enfants, on fait des actions humanitaires avec nos élèves aussi, on invite des handicapés, on fait pas mal de choses à l'occasion de Noël. Ça, c'est d'habitude. Cette année, on a eu le temps au début de garnir l'école, mais il y a eu ces événements le 8 décembre. Il n'y avait plus d'école pendant 10 jours. Quand nous sommes revenus, il faut dire que nous, il y a les examens juste après le nouvel an. Donc, on a eu le temps de faire le rattrapage de tout ce que nous avons raté pendant plus de 10 jours sans école. Et aujourd'hui, lundi, c'est notre dernier jour avant Noël. Et donc, on va faire des fêtes de classe, donc des chansons, des danses, donc des choses comme ça qu'on, nous avons l'habitude de faire avant Noël. Nous avons pu, avec tout ce que nous vivons, donner la joie et l'espérance à nos élèves et à nos enseignants.
Vous parlez de joie et d'espérance. L'espérance est le thème du jubilé. Est-ce que vous, vos élèves, votre ville de Damas, votre Syrie, a des raisons d'espérer Noël? Après tout, c'est la fête de l'espérance. Est-ce que cette année, on peut espérer plus que les années précédentes?
Alors, on vit toujours dans l'espérance, oui. Sans l'espérance, il n'y a plus de vie. Surtout nous, en tant que peuple syrien, on est passé par plein d'épreuves, des guerres, de séismes, plein de choses. Et c'est toujours l'espérance qui nous donnait la force. Alors cette période maintenant qui est un peu ambiguë, c'est une raison de plus de vivre dans l'espérance, de vivre dans la confiance en Dieu seul.
On l'a compris, il y a à la fois beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance, à la fois quelques inquiétudes parce que le scénario de l'avenir n'est pas encore clairement défini. Mais pour reconstruire la Syrie, selon vous, par quoi faut-il commencer?
Peut-être chacun doit être un acteur dans cette Syrie. Je commence par ce que je peux faire. Moi, à mon avis, le premier pas à faire maintenant en Syrie, c'est le pardon. De vivre dans le pardon, parce que c'est vrai que le régime ancien, c'était un dictateur, et puis ceux qui sont autour de lui aussi étaient avec lui. Mais maintenant, on ne veut pas, en tant que peuple, aussi refaire une deuxième vengeance. Donc, notre rôle maintenant, c'est la réconciliation. Il y a à dire, on va vivre ensemble. Bien sûr, il faut qu'il y ait la loi, mais que ça soit passé par la loi et non pas par la vengeance.
Et vous, Sœur Jihad, sur un plan plus personnel, qu'est-ce que vous souhaitez pour la Syrie qui va se reconstruire?
Ah oui, j'ai beaucoup de souhaits, surtout après tant d'années. J'ai des contacts avec des familles qui sont très, très pauvres, qui ont beaucoup souffert et qui souffrent jusqu'à maintenant parce que la vie est toujours très difficile à vivre. Je souhaite la paix à tous ces gens-là, une vie plus digne, et puis le droit à l'éducation, et puis que oui, que la Syrie, enfin, le pays du christianisme, retrouve sa foi, retrouve sa dignité, retrouve sa paix.
S'interroger par sœur, par Jean-Charles Puzolu, sœur Diana Tala, était ce matin invité de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera 13h heure de Rome. D'ici là, une très bonne journée à toutes et à tous.